Merci au groupe Louange pour ces chants. Je ne sais pas si les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a fait comme à moi, mais bon, ça m'a donné la pêche. C'est aussi incroyable comment les chants, le choix des chants. Moi, je suis toujours bluffé comment Dieu prévoit le choix des chants pour la suite du message et de ce qu'il a mis sur le cœur de la personne qui doit parler après. Et j'avais relevé dans le premier chant qu'on a chanté, un des tout premiers chants qu'on a chanté, mais tous les autres, j'aurais pu relever un verset qui était extraordinaire. Et j'avais noté « Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. » C'est la grâce de Dieu pour tous les jours et depuis longtemps, pour maintenant et pour toujours. En relisant avec les notes bibliques en janvier, une partie du livre des Proverbes, j'ai été frappé, particulièrement frappé et remis en question par plusieurs constatations dont j'aimerais vous faire part ce matin. Avec d'abord une question. À quoi pensez-vous quand on vous dit le mot proverbe ? C'est pas une interrogation écrite, hein ? Rassurez-vous. Conseil. Maxime. Principe. Sagesse. Qui d'ordine ? Là, on voit celui qui manque de sommeil, hein ? Ou qui a faim, je ne sais pas. Comme beaucoup de chrétiens, je crois, j'ai souvent vu, compris, je ne sais pas, les proverbes, le livre des proverbes, comme seulement de très courtes phrases, ça ressort bien d'ailleurs, d'un ou deux versets isolés, posés comme ça les unes les autres. Bien pensés, parfois avec piquant, les proverbes nous assènent des vérités certaines, bien sages, on a parlé du mot sagesse, mais voire aussi quelques vérités de la palisse, qui d'ordine, c'est plus la palisse que proverbe, je ne sais pas si vous avez essayé. Bien souvent aussi, elles sont bien pensées, bien énoncées, et elles nous font sourire, voire rire, voire aussi peut-être rire jaune, quelquefois. Et c'est là, je pense, une façon courante qu'on a dans l'Église d'entendre les proverbes plutôt qu'une véritable lecture du livre des proverbes. Ce qui voudrait plus dire, pour tout le livre, les lire, les écouter, les méditer. Je vous propose, piquer, pas au hasard, rassurez-vous, quelques exemples bien ciblés, piqués dans le livre des proverbes, où peut-être nous pouvons quelque part nous reconnaître. On va voir, je vais vous donner le début, on va voir si vous trouvez la suite. Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Proverbe 20, 14. L'acheteur dit, c'est une bien mauvaise affaire. Mais, dès qu'il est parti, voilà, autre traduction, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Plus difficile. Si l'on dorlote son serviteur dès le jeune âge, on finit par en faire un mollasson, autre traduction que j'aime bien. Un fils insensé est une calamité pour son père. Alors j'ai osé. Et les querelles d'une femme trompeuse sont comme une gouttière sans fin. Désolé, mesdames, il y en a aussi pour les hommes, rassurez-vous. Riches et pauvres ont ceci en commun. Il les a pris par cœur. Hein. Merci. Et puis alors un proverbe que j'ai trouvé vraiment j'ai remercié Dieu de ce proverbe. Il s'applique à l'Assemblée générale qu'on a eue au mois de janvier et qui met les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Réfléchissez. Pensez à vos pouvoirs, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. J'ai trouvé beaucoup d'amour et beaucoup d'humour dans le choix qu'a fait Dieu. Chacun peut donc trouver d'une façon isolée, dans l'une ou l'autre de ses maximes, un sujet qu'il concerne, qui lui parle ou qui l'intéresse. Si ce livre est intitulé « Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël », dans ce livre, il y a d'autres choses. Tout ne vient pas de Salomon. loin de là, ni ne contient toutes ses maximes. Il y a probablement un rédacteur, un scribe, comme on les appelait à l'époque, qui a récolté, parmi les quelques 3000 proverbes que le livre des rois attribue à Salomon, les plus clairs, les plus imagés, les plus fortes. Il en a rajouté d'autres qui proviennent d'auteurs connus, qu'il cite d'ailleurs, d'autres qui proviennent d'auteurs moins connus ou inconnus. Il les a triés, présentés dans ce livre, avec tout un liant, et notamment l'introduction du chapitre 1 que nous allons lire dans un petit moment. Mais avant, j'aimerais vous lire un commentaire sur le livre des Proverbes qui le résume et que j'ai trouvé très très clair. Écoutez bien. Les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Voilà une explication du livre des proverbes qui retrace bien ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Tout un programme, donc. Mais maintenant, nous lisons le chapitre 1 du livre des Proverbes, le début du chapitre 1 du livre des Proverbes. Les 6 premiers versets. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et leurs sentences. Voilà les 5 premiers versets dont j'aimerais vous parler ce matin. Est-ce que quelque chose vous a frappé dans les deux passages que je viens de vous donner ? Eh bien, c'est exactement le même passage. L'explication que je vais donner, c'est simplement une traduction de la Bible du Semeur. Ce sont les 6 premiers versets de la Bible du Semeur mis dans un langage du XXe siècle, simplement. Ce commentaire donc, que j'ai lu précédemment, c'était mot pour mot ce passage de Proverbes 1 à 6. J'aimerais revenir ce matin sur quelques pistes de réflexion que nous apportent ces 6 versets de Proverbes 1. Il ne s'agit pas à proprement dit, de leçons de morale, comme celles que les personnes, je vais dire de mon âge, les plus âgées, ont sûrement eues à l'école primaire. Il y avait des leçons de morale à l'école primaire. Ce n'est pas du tout ça. Le but des Proverbes n'est pas de punir, comme on dirait faire la morale. Vous savez, faire la morale, hein ? Enfin, on ne monte plus le doigt, mais vous savez ce que ça veut dire. Ce n'est pas de critiquer, de montrer du doigt, justement. Mais le but des proverbes, et nous l'avons lu, il est avant tout éducatif, et cela est répété et imprimé dans les 5 premiers versets. En effet, le mot « pour » se trouve 5 fois entre le verset 2 et le verset 6 des proverbes. Cela indique clairement à quoi et à qui les proverbes qui suivent sont destinés. Pour connaître, c'est le premier point, pour connaître. La lecture de ces textes est indispensable pour nous afin d'acquérir cette connaissance qu'on va aussi appeler intelligence dans la parole de Dieu. Quelle est cette connaissance ? Pour connaître la sagesse et l'instruction, c'est-à-dire se laisser instruire pour acquérir de Dieu la sagesse qui vient de lui. Notez ici que le mot « connaître » ne s'arrête pas à connaissance, comme on a pris connaissance de quelque chose qu'on a eu dans le journal, hein, pour l'avoir lu, l'avoir entendu, ou quelque chose qu'on nous a dit. Non, bien plus, l'idée ici du savoir comprend l'intégration de ce qu'on a reçu. Et d'ailleurs, le deuxième point, c'est comprendre. Pour comprendre, l'auteur continue dans sa lancée. Connaître, acquérir et surtout comprendre, c'est-à-dire rechercher le sens, les valeurs des instructions, mais aussi analyser les tenants et les aboutissants. c'est-à-dire en comprendre les raisons et les conséquences pour nous. Là, cela commence à changer. Ça nous demande de nous arrêter et d'y réfléchir d'une façon méthodique et sérieuse. Et le troisième point va nous y aider pour recevoir des leçons. Connaître, comprendre, recevoir des leçons. C'est-à-dire sur ces mêmes sujets que les proverbes, dont les proverbes nous parlent, qui souvent nous font sourire, les proverbes vont nous donner des exemples, nous proposer des situations pour les, dans lesquelles l'auteur souhaite confronter notre vie à nos connaissances et à notre compréhension. Comment dans la situation présentée, je ressens, je comprends, je me mets en marche, je mets en marche en moi le bon sens, la justice, l'équité, la droiture, c'est ce qui nous est proposé. Information reçue de ce livre et que ces textes m'ont fait connaître et comprendre. Comment est-ce que je mets ça en marche? À la lecture de ces trois premiers versets, il n'y a donc aucun doute sur la destination des proverbes. Ils sont là pour nous faire connaître, comprendre, nous instruire, nous montrer, nous expliquer, nous rappeler. Mais expliquer quoi? Les bases de la vie avec Dieu, les enjeux de l'Évangile, la façon de gérer notre vie de fils adopté par Dieu. D'accord, mais alors, à qui vraiment vont s'adresser ces proverbes? Nous sommes tous différents. Le verset 4 nous donne deux indications sur deux groupes de personnes. Pour donner aux simples. Pour donner aux simples. C'est-à-dire, ce mot simple, vous savez, on l'a déjà dans le chapitre 5 de Matthieu. Heureux, les simples. Il y en a des simples, les simples en esprit. Voilà. Là, on parle de nouveau des simples, et c'est le même genre de personne. C'est-à-dire celui qui a un manque d'instruction, peut-être, ou du moins, dans ce domaine, celui qui manque peut-être des bases proposées dans ces sentences, dans ces proverbes. Il donnera donc à celui-là un discernement pour faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est futile dans la vie du chrétien. Ce qui est indispensable et ce qui est superflu, ce qui rend gloire à Dieu et ce qui ne le glorifie pas. La suite du verset nous dit « au jeune homme ». Ah ça y est, c'est super, c'est pour les jeunes. C'est-à-dire, au jeune homme, on ne parle pas d'âge, celui qui débute dans la vie avec Dieu, qui n'a pas encore ni tous les repères peut-être, ni tous les réflexes, Dieu ici promet de la connaissance, de la réflexion, deux éléments importants et nécessaires pour se construire et pour la vie de tous les jours. Il propose donc aux simples et aux jeunes hommes, ni plus ni moins que les bases qui lui seront nécessaires pour la vie. Voilà donc, nous pouvons dire que nous avons trouvé à qui s'adressent les proverbes. Ils sont formation et instruction pour les chrétiens récents, encore peu instruits, en quelque sorte en apprentissage. Malheureusement, nous avons souvent bien tendance à ne retenir que ces deux catégories de lecteurs. C'est peut-être aussi pour ça que souvent les proverbes semblent faire sourire le plus grand nombre, c'est-à-dire les autres chrétiens, les adultes, croyants depuis longtemps, ceux qui ont déjà vécu, ceux qui ont acquis ce savoir au fur et à mesure des années et qui donc semblent savoir toutes choses. En gros, les chrétiens sages et intelligents. En gros, la grande partie. Mes frères et sœurs, la suite de notre texte nous apporte une toute autre information. Au verset 5 qui nous dit « Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et que celui qui est intelligent écoute, entre parenthèses, il acquérera de l'habileté, quelque chose pour lui. » Voilà donc réellement pour qui est l'enseignement du livre des Proverbes. Il est donc utile, enrichissant pour tous, jeunes, petits, mais aussi sages et intelligents. C'est-à-dire pour tous, hommes, femmes, enfants, quelle que soit leur ancienneté dans la foi, leur ministère, leurs compétences devant Dieu, ou leur âge, Chacun y apprendra, chacun y comprendra, chacun y recevra une instruction utile, adaptée et nécessaire à lui pour sa vie de tous les jours. Le verset 6 des Proverbes nous annonce aussi tout de go et sans distinction de personne que ces instructions nous sont transmises, et je lis le verset 6, pour saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme, des paroles de sagesse ou de leur sentence. Des paroles de sage ou de leur sentence. C'est-à-dire dans le but de saisir ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Alors seulement, le rédacteur peut poser cette phrase célèbre et très connue des Proverbes, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Par sagesse, on entendait connaissance, science, art, tout ce qui est que l'homme va entrer dans quelque chose qui le construit. C'est-à-dire que le fait de rechercher cet enseignement qui nous est proposé par la parole de Dieu, ici dans le livre des Proverbes, de le méditer, d'en faire son principe de vie, c'est aussi cela, craindre Dieu. Malheureusement, nous devons constater, et c'est aussi écrit noir sur blanc dans notre texte, beaucoup de personnes méprisent cet enseignement. C'est-à-dire, rejettent ce principe même de rechercher Dieu, de rechercher dans sa parole, et en fin de compte, rejettent Dieu. Les différentes traductions de la Bible qualifient ces personnes qui ne recherchent pas Dieu de fous, d'imbéciles ou d'insensés. Il y a d'autres mots encore, mais ce sont des mots durs, ce sont presque des insultes. La version « Parole de vie » donne ce verset 7 de la façon suivante, « Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. » Stupides, c'est le message de Dieu. Frères et sœurs, honnêtement, mettons-nous personnellement devant Dieu. Est-ce que j'écoute vraiment ces instructions? Est-ce qu'au fond de moi, c'est important, c'est vital de les rechercher, de les connaître, de les comprendre et d'en recevoir les leçons que Dieu a déjà préparées pour moi? Est-ce que j'ai dans ma vie comme priorité la quête d'une nourriture spirituelle? Est-ce que j'ai dans ma vie comme priorité la quête de ma nourriture spirituelle? Je dois, comme vous, j'aime bien ça, ça ne me dérange pas, aller faire les courses au magasin pour nourrir mon corps. Je ne peux pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ou alors vous avez un énorme jardin, un énorme congélateur, mais vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller faire vos courses. Mais alors pour les courses spirituelles, je fais comment? Le verset 8 nous le dit clairement comme un ordre. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de Dieu. Où vais-je la trouver, cette nourriture spirituelle, si je ne la cherche pas là où elle se trouve en rayon? C'est-à-dire dans sa parole. Force est de constater que dans l'Église, et a fortiori dans la nôtre aussi, c'est bien souvent ici que le bât blesse. Et cet enseignement ne se limite pas au livre des Proverbes. Il concerne notre attitude générale quant à la place ou à la priorité que nous mettons à nous nourrir spirituellement, à la méditation de la parole de Dieu, que ce soit personnellement ou que ce soit dans les temps préparés spécialement pour cela dans l'Église, lors des réunions de prière, des cellules, des études bibliques, des séminaires. Alors non, nous l'avons déjà mentionné, le livre des Proverbes n'est pas une leçon de morale, mais une interrogation logique, ciblée, qui nous est adressée personnellement pour nous faire réfléchir à notre comportement. Il nous invite à faire le point sur nos priorités, sur notre renouvellement spirituel, à nous remettre en question, mais pas simplement à nous engager et à agir. Il y a dans le livre des Proverbes quelques autres passages clés qui sont importants et qui continuent de nous interpeller dans ce sens de la démarche, de prendre ce temps avec Dieu. Proverbe 2. Regardez. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme l'or, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, si, avant qu'il y ait le mot alors. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire un commentaire ici. Il y a des conditions, des conseils, et il y a des conséquences. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et au verset 9 du même chapitre, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, la même chose qu'on avait dans le verset 2 du chapitre 1 des Proverbes. Car la sagesse, pardon, je relis ce verset 2, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. C'est un appel vibrant à nous mettre au travail en prenant le temps, en prenant du temps, en reprenant du temps pour méditer la parole de Dieu qui est vitale, qui est nécessaire. Il y a dans le livre des Proverbes beaucoup d'images, de raccourcis, de situations où nous nous retrouvons, où nous ne nous retrouvons pas peut-être, mais où nous nous retrouvons, d'images qui nous correspondent. Elles sont toutes sans aucune ironie, sans méchanceté, sans moquerie, mais elles nous interpellent parce qu'elles nous concernent directement dans nos agissements. Dieu nous invite, frères et sœurs, à ne pas faire la sourde oreille à son appel et au message qu'il envoie dans sa parole, notamment par ces 6 versets du début du chapitre 1 des Proverbes. Dieu nous veut au travail, mais au travail nous déjà, nous-mêmes, pour notre bien, pour notre équilibre. Pour ce qui est de la négligence à méditer la parole de Dieu, relisez le chapitre 6 des Proverbes. Vous y trouverez que Dieu qualifie ni plus ni moins que de paresseux, celui qui néglige l'étude de sa parole. Il lui conseille d'aller chercher l'inspiration auprès des fourmis qui amassent leur nourriture pendant la moisson pour avoir ce qu'il leur faut plus tard. J'ai trouvé que c'était d'un amour et d'une miséricorde, ce mot de paresseux. Par contre, les mots qui suivent sont très très durs. Donc il demande de se lever, pas seulement pour venir au culte, mais il dit, il y a ceux qui restent au lit aussi. Et donc il emploie cette image de paresseux qui m'a beaucoup parlé. Frères et sœurs, ces remarques sont pour chacun de nous, non pas des doigts pointés et accusateurs, mais un appel, un encouragement à rechercher la voie que Dieu nous trace jour après jour, en creusant sa parole, seul chez soi, avec les frères et sœurs, dans les rencontres de l'Église, et ainsi à le connaître mieux pour recevoir ses bénédictions, celles qu'il a en réserve pour nous. Mais il y a tous ces « si » avant qu'il y ait ces « alors ». Cela fait partie de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il s'adresse ici à nous, qui que nous soyons, que nous venions de très loin, de très profond, que nous étions très loin d'avoir un jour l'imagination même de penser à Dieu. Ça, c'est fait pour nous. Et le plus beau témoignage, je terminerai avec ce verset, c'est Paul qui le donne. De cette grâce, cette miséricorde que Dieu lui a donnée. Et on termine sur la grâce de Dieu. 1 Timothée 1, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est un appel pour chacun de nous. Et Paul termine, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence, si on veut le prier, qu'il le fasse vraiment librement. Seigneur, avec ce livre des Proverbes, tu nous interpelles à te retrouver dans ta parole, à prendre ce temps, à méditer, à te rechercher pour te connaître. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu nous relances et tu nous relances parce que tu nous connais. Tu sais combien nous sommes souvent enclins à faire d'autres choses qu'à lire ta parole, rechercher la méditer. Rechercher tes voies. Et nous voulons te prier que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous dire. Tu nous aides à prendre ce temps béni avec toi, chez nous, tout seul, ensemble, dans nos rencontres. Nous te bénissons pour ce temps que toi, tu as mis à part pour nous. Et nous te prions que nous puissions avoir la soif tous, l'envie, le désir de te connaître vraiment, te rechercher vraiment, de te trouver. Et de jouir de tout ce que tu as à nous donner. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, et t'adorer. Sois béni. Tu es notre Dieu. Dans toi que nous faisons confiance, Seigneur. Amen. Voilà, je vais laisser la place à Grace, peut-être l'Aléna, s'il veut venir aussi. On a quelques nouvelles de David, et puis tu nous diras ce que tu voudras, d'ailleurs.
Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Grace, je suis mariée à Lalaine qui est derrière et nous avons trois enfants. Trois T d'ailleurs, Timothée, Tiki et Tobias. Et nous sommes en formation à l'IBG, de l'autre côté du lac. Et en fait, je suis là pour vous raconter deux histoires, la mienne et la mienne avec vous. Mais avant, j'ai parlé de nous d'abord. C'est que nous sommes missionnaires dans un petit village de Madagascar. Et c'est pour ça que nous sommes venus nous former, parce que nous avons vu qu'on n'avait pas assez de connaissances bibliques. Et puis, on voulait mieux connaître Dieu pour le servir et vraiment dans notre vie quotidienne aussi. Voilà ce qui est de nous. Mais si je suis là, c'est aussi pour vous parler de la famille Ratovo. Et donc, ça fait à peu près 28 ans que je suis venue ici la dernière fois. Je devais avoir 2 ans et demi. Donc, j'ai aucun souvenir et c'est, et c'est incroyable comment Dieu dirige les choses et que je sois là aujourd'hui. Et donc, les plus grands souvenirs que j'ai, par contre, c'est les cadeaux que vous envoyez tous les ans, qui ont duré à peu près une vingtaine d'années. Et ça nous a vraiment appris des choses, étant enfant, sur les valeurs de Dieu, comment Dieu est fidèle, parce que vous avez été fidèle. Et tous les ans, que ce soit au mois de novembre ou en février, on attendait avec impatience ces cadeaux. Et ça nous apprenait à partager avec les frères et sœurs, parce que l'un avait un plus beau nounours que l'autre. Ça nous apprenait aussi les valeurs de Dieu par rapport au vol, parce qu'il y avait de super bonbons, super chocolats, et puis on trouvait c'était où dans le placard de maman, on volait, et puis vraiment ça nous a éduqués en fin de compte, et ça a été plus que des cadeaux. Et sinon, ça nous a appris à prier pour vous aussi, à prier pour un peuple de Dieu qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître. Et vraiment, ça nous a vraiment touchés. Et les cadeaux ont grandi avec nous, en fait. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est que le jour où je me suis mariée, il y a le groupe de dames qui m'a envoyé une carte pour me féliciter. Et en fait, même si je ne vous connaissais pas, j'ai grandi avec vous. Et c'était vraiment super. Et voilà, et vraiment que Dieu vous bénisse pour tout cela. Et merci à vous de nous avoir permis de vivre ces expériences. Alors, concernant papa, il se porte bien, il est toujours aussi engagé, un peu trop. Mais c'est un peu difficile depuis que maman est partie il y a 3 ans, ça a été soudain, mais voilà, c'est Dieu qui est souverain. Et donc c'est pour ça aussi qu'il vous écrit moins, parce que c'était maman qui faisait les lettres de nouvelles, et lui il faisait juste la mise en page, mais je crois qu'il va essayer de vous écrire, je lui en ai parlé. Et voilà, il vous salue et il vous remercie pour tout ce que vous faites pour lui. Et voilà, j'espère qu'on pourra encore garder contact aussi, les générations futures, avec vous. Et voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
Dis ce que tu veux. Hein.
voilà. Sinon, vous pouvez venir discuter avec moi si vous avez d'autres questions après. Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci. Oui, je vais juste dire que c'est vrai que les paquets de Noël, c'était quelque chose qui était... c'était compliqué de faire des paquets de Noël pour la famille Ratovo. On avait toutes les fois les âges. Qu'est-ce qu'on a donné l'année passée à elle? Si on donne la même chose à... Ouh là là, ça va être compliqué, ça. Alors, c'était un peu du... C'était des moments sympas. Mais en tout cas, on est content de vous avoir aujourd'hui. Alors si, pour ceux qui ne se rappellent pas de David qui est venu il y a quelques années, en fait ça date déjà un petit peu, donc vous rappelez peut-être de David, mais si vous voulez voir à quoi ressemblait Mamie Ratovo, vous regardez le fils aîné, c'est le portrait de Mamie Ratovo. Voilà, donc voilà, il y a le fils aîné de grâce, c'est le portrait de sa grand-mère, comme deux gouttes d'eau. Voilà, merci en tout cas de ce petit témoignage.
Bonjour. Alors, je partage avec vous les annonces de la quinzaine, en fait. Alors, demain, Femme Club, chez Rebecca, j'imagine, à 14h. Mardi, étude biblique des aînés, à 14h30 ici, au sous-sol. Mardi soir, ce sont les cellules. Alors, pour la cellule de Gex, on se retrouve chez Jean-Paul et Lydie. Pour la cellule de Collonges, côté sud. C'est bon, chez Péric et Lydia, donc. Pour la cellule de Prefsin, j'imagine. Oui. Alors voilà. Donc pour la cellule de Prefsin, vous regardez avec Emmanuel et Rebecca. Ouais. Ensuite, jeudi, on a la chorale. Oui. Ok, alors je pense que les gens regardent avec Emmanuel et Rebecca, vous vous arrangez entre vous. Jeudi, donc. Ouais. Jeudi, la chorale qui se retrouve pour la dernière répétition avant le culte en commun. Vendredi, le groupe d'ado, c'est juste, 19h. 19h30, au groupe d'ados. Samedi, alors, en prévision du culte de dimanche, donc samedi, en fin d'après-midi, à 17h, on se retrouve, tous ceux qui veulent donner un coup de main, pour installer la salle de la chenaille à Échenevé pour le culte de dimanche. Samedi soir, groupe de jeunes, à 20h. Ok, donc pour samedi soir, il y aura bien le groupe de jeunes, mais vous recevrez les informations par email. Dimanche matin, culte en commun. Alors le culte en commun commence assez tôt, puisque c'était pour chez nous, habituellement, d'après notre rythme, le thé café. Alors Pierre-Alain et Valérie ont proposé de maintenir le thé café, de le faire lors du culte en commun. C'est chouette, donc on se retrouve à 9h. Pour ceux qui veulent, donc, à la salle de la chenaille. Hein. Donc, 9h sur place à Échenevé pour le thé café. Ensuite, le culte va commencer à 10h. Et puis, après le culte, il y a donc un apéritif à la place du repas qu'on avait l'habitude de partager ensemble. La semaine prochaine, la semaine d'après plutôt, je vous donne déjà les annonces parce que dimanche prochain, il n'y aura pas d'annonce, sinon c'est beaucoup trop compliqué lorsqu'on est plusieurs églises ensemble. Donc, le lundi 16, conseil, donc dans 8 jours. Le samedi d'après, il y aura le club d'enfants. Et là, je vais laisser la place à Emmanuel, qui va nous faire quelques annonces.
Donc, pour tous les clubbeurs et clubbeuses, donc deux clubs. Déjà, donc, le 21 mars, comme Philippe l'a dit, le club d'enfants, le samedi matin, de 10h à midi, vous avez toujours, au fond, les petites invitations pour les garçons ou pour les filles. Donc, n'oubliez pas d'inviter des enfants. C'est pour les enfants de 4 à 11 ans. Pour toutes les personnes qui participent au club, on vous enverra un email pour faire un petit topo. Pour le club d'été, Pierrick a préparé les petites invitations. Vous pouvez en prendre. Il y en a au fond, comme celle-ci. Donc, mélangez pas les deux clubs. Et donc, ça, c'est pour le club d'été du 13 au 17 juillet pour les enfants de 7 à 14 ans. Et après, l'inscription se fait sur le site internet. On a déjà reçu beaucoup d'inscriptions de bénévoles et d'enfants, mais vous pouvez encore continuer à vous inscrire. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et puis sinon, je voulais faire une autre annonce qui n'a rien à voir avec ton programme, mais j'en profite que je suis là. Il y a 7 semaines en arrière, on vous avait dit qu'Audrey avait eu des soucis suite à son opération. Et on voulait vraiment vous remercier, déjà remercier Dieu pour sa fidélité et vous remercier aussi pour vos prières. Elle a eu les radios, donc il y a une amélioration. On doit refaire des radios dans 6 semaines, mais voilà, la calcification a commencé à se faire. Et quand on a vu le médecin, on a vu son sourire, on lui a dit, mais il y a 7 semaines en arrière, quand on a fait les radios, donc vous étiez vraiment en souci. Et il a dit oui, j'ai eu très très peur que tout ce qu'on avait fait, toute cette grosse opération, que tout s'écroule. Donc je peux vraiment vous dire, on est vraiment reconnaissant pour vos prières et merci Seigneur pour sa fidélité durant toutes ces années.
Merci. Donc on est au samedi 21, dans presque 2 semaines. Le matin, club d'enfants. L'après-midi, il y a un cours biblique qui nous est proposé à Saint-Genis sur Martin Luther King. Donc, il y a quelques petits flyers comme cela, une affiche au fond. On est aussi invité à le partager avec l'église de Saint-Genis. Donc, ce cours biblique, il y aura 2 rencontres le samedi. Une première à 16h, une deuxième à 20h30. Et puis ensuite, le cours biblique se terminera par le culte du dimanche matin à Saint-Genis. Le samedi 21, il y aura le groupe de jeunes. Le dimanche 22, le culte ici, comme d'habitude. Quelques nouvelles d'Alfred, qui n'était pas très bien ces derniers temps. Alfred a la maladie de Lyme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la maladie de Lyme. C'est une maladie qui se transmet par les tiques et qui est assez récente, qui s'est développée ces dernières dizaines d'années. C'est une maladie qui n'est pas simple à traiter. Voilà. Il est en fin de traitement. Il prend aujourd'hui le traitement pour la dernière étape de son traitement. Donc, pour cette raison, ces dernières semaines, il ne conduisait pas par mesure de sécurité. Il pense bientôt pouvoir reprendre le volant. Donc, c'est bien de penser à lui aussi parce que ce n'est pas simple. C'est une maladie qui donne des douleurs qui viennent comme ça par vagues. Et c'est bien de le remettre dans nos prières aussi. Pensons aussi à Mélanie qui a eu une crise de paludisme ces derniers jours. Alors c'est pas dramatique, on sait depuis quelque temps qu'elle porte le paludisme, mais voilà, c'est aussi par vague. Et puis là, elle n'était pas bien ces derniers jours, donc c'est important aussi de la remettre dans nos prières. On a reçu les flyers du camp Jab, des camps Jab pour l'été, camp de jeunes, camp d'enfants aussi j'imagine, camp d'ados, etc. Ils sont donc à disposition au fond de la salle, servez-vous. Ne traînez peut-être pas pour les inscriptions, parfois des camps sont assez rapidement remplis. C'est important de les prendre et puis de les faire connaître aussi. Cette semaine, on vous invite de prier, comme chaque semaine, pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Cette semaine, on vous invite à prier pour le Vietnam. Si tu peux juste mettre l'image. Le Vietnam, je ne sais pas si c'est un pays qui est connu par tout le monde. Voilà, le Vietnam, est situé, c'est le pays qui est le numéro 16, donc tout à droite de l'Asie. C'est un pays, le Vietnam est un État communiste. Et dans ce pays, le christianisme est considéré comme ayant une influence négative, une influence néfaste. Et ça entraîne forcément de la persécution qui est quand même bien présente. Et au niveau de l'évolution de la persécution dans le Vietnam, en 2014, le Vietnam était en position 18 dans l'index mondial de persécution. Il est passé en 2015 au numéro 16. Donc la persécution a tendance plutôt à augmenter dans ce pays. Donc pensons à nos frères et sœurs chrétiens dans ce pays. Il y a environ 90 millions d'habitants, environ 10 millions de chrétiens, toutes confessions confondues, évidemment beaucoup de catholiques aussi, mais qui sont tous tout autant persécutés. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets dans le psaume 96. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, et c'est le cas aujourd'hui avec le beau soleil, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.